sur Neuf, ma radio, changer. Et Senzo, la suite évidemment, et le retour des rendez-vous de midi d'ailleurs, Emmanuel, aujourd'hui.
Oui, c'est là, voilà. On rouvre aujourd'hui les rendez-vous de midi en 2025 avec un auteur, un ami. C'est ce qu'on a bien dit tous les deux, Arnaud, qu'on est ravis de recevoir. Bonjour Philippe, Gilbert.
Rebonjour Emmanuel et Arnaud. Emmanuel Achard,
oui, maintenant ça change.
Et Arnaud Guiteau. Bien, moi c'est toujours un prénom qui me sert de nom, c'est-à-dire que je suis un enfant trouvé à l'origine, mais maintenant qu'on m'a trouvé, il ne faut plus me chercher.
Il ne faut plus vous chercher. Très belle année à vous, Philippe, après une année 2024 couronnée de succès, ce beau prix, celui des écrivains de Vendée.
Oui.
Fierté ?
Oh, faut pas exagérer, mais j'ai pris le melon, et puis après c'est devenu une citrouille, et puis maintenant c'est devenu un carrosse, et certains petits malins m'appellent Cendrillon.
Oh bah.
Hein, vous voyez où on en est.
N'empêche, Le Monde change après, c'est le titre de votre livre. Comment vous avez vécu le fait d'être quand même distingué par vos pairs, parce que c'est ça aussi les écrivains de Vendée.
Écoutez, c'était le 28 novembre dernier au conseil départemental, dit-on maintenant, autrefois on disait conseil général, mais bon, je suis un jeune retraité qui va vers ses 69 ans. Et donc, moi, je n'étais pas trop pour. Quand on m'a dit « tu es nominé », il y avait 6 bouquins. Je me suis dit, pourvu que je n'ai ni la médaille d'or, ni la médaille d'argent, puisqu'il y a 2 prix qui sont remis. Le prix CMO est ce que j'appelle la médaille d'argent. Et puis voilà, ça m'est tombé sur le coin de la figure. Moi qui n'avais jamais eu de diplôme, qui eût eu le seul de ma classe au lycée Guiton, comme on disait autrefois à La Roche-sur-Yon, à ne pas avoir eu mon CAP routier.
Mais j'allais le dire, ça vous le dites toujours, c'est une grande fierté, ça, pour vous. Hein.
D'après que je radote aussi, mais je radiote.
Mais parce que pour vous, c'est une fierté d'être le seul de la promo à ne pas avoir eu CAP.
Oui, mais vous savez, je suis un totalement vendéen, un enfant de la main bourgère du pays de Maruse-sur-Lay. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans en France parce que mes parents m'ont fait naître à Madagascar. Et j'étais un enfant sauvage. Le premier jour de classe s'est très mal passé. J'en ai le souvenir.
À 5 ans, 6 ans
À 5 ans.
Ouais.
Hein, première rentrée, alors ça j'en ai moins de souvenirs. On m'a demandé de me mettre en rang. J'ai dit non, je suis fatigué, je suis affligé. Je me suis assis sur la butte. Mais ce dont je me souviens, c'est comment j'ai été houspillé et secoué par l'instituteur laïque. Hein, comme quoi qu'on fait des bêtises des deux côtés. Et parce que j'avais cassé mon ardoise. Et le pourtour de l'ardoise a fini autour de mon cou, et ma première récréation, ça a été les mains dans le dos avec le pourtour de l'ardoise autour du cou.
Ça commençait bien.
Bravo, monsieur l'instituteur laïque. Mais nous sommes en 1960, alors ceci peut peut-être expliquer cela, quoique. Mais je me suis quelque peu vengé grâce à la FM, parce que moi, le début du journalisme, ça a été la FM, que j'ai découverte en 1983 en revenant d'Afrique. Je ne savais même pas que les radios locales existaient. Et quand j'ai vu un studio, à l'époque c'était à Esnay, c'était Platine 95 qui a mal tourné. Et quand j'ai vu ça, j'ai croqué la merveille. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Mais j'allais vous demander.
Sans mon CAP routier.
Voilà, entre le moment du CAP et le moment où vous commencez à faire de la radio, puis presse écrite, parce que vous allez être, on vous connaît, vous, journaliste à Ouest France aussi, il y a eu ce grand voyage dont on va parler, effectivement. Mais qu'est-ce que vous avez fait entre ces moments, entre la fin des études et le premier travail de journaliste?
Je suis allé au boulot, j'étais bougnat. Je livrais du charbon l'hiver et de la boisson l'été chez Rivière. Entreprise de La Roche-sur-Yon qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque était bien installée sur La Roche-sur-Yon. Et durant cette, vous voyez, j'ai les idées qui s'égaraient. Et durant cette année-là où le charbon, je peux vous dire, des sacs de 50 kilos, j'avais pas besoin de m'entraîner pour jouer au foot le dimanche. Hein. Et c'était en 1976. Donc en boisson. Avec des fûts de bière qui, à l'époque, pesaient encore 50 kilos. Voilà, j'ai fait des boulots comme ça. J'ai été gazier, j'ai livré aussi des pièces de boucherie, dont des moitiés de bœuf à 150 kilos. Je revois un boucher me dire « Vous n'êtes pas fait pour ce métier, monsieur ?» Je dis « Oui, je sais, j'essaye de survivre pour partir en voyage. »
Voilà, c'était votre rêve. Vous vous arrêtez quelques temps en stage à La Roche-sur-Yon. Vous y rencontrez Juliette. Enfin, en tout cas, on l'appelle Juliette dans votre livre.
On va continuer à l'appeler Juliette.
Qu'est-ce que vous faites dans ce stage à La Roche-sur-Yon?
C'est pour être représentant de commerce.
C'est tout à fait vous.
Et j'ai toujours eu un problème avec la vente. D'ailleurs, je dis souvent qu'il y a un journaliste et un VRP qui n'a pas réussi. Et moi, c'est mon cas. Un journaliste, c'est aussi un concierge. On répète ce qu'on nous dit, et pas toujours très bien.
Parfois.
Bref, j'adore définir le journaliste qui explique ce qu'il n'a pas compris. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai fait de la radio.
C'est
et après,
talent.
Dans un quotidien, pendant 20 ans, sur Chaland.
Sur Chaland.
J'avais pas que des amis, mais un journaliste n'est pas là pour se faire des amis. Oui. Ni des ennemis, mais il se fait plus facilement des ennemis. Celui qui a trop d'amis, notamment parmi les élus, il est à mon avis suspect. Vous me direz, c'est un mot qui prête à caution, aurait dit Coluche.
Moi, j'ai eu la chance d'arriver, vous étiez encore à Ouest-France et on s'est croisés sur plusieurs conférences de presse, reportages.
Oui.
Et puis après, on s'est croisés ici à l'antenne sur plein de chroniques que vous avez eu la gentillesse de produire.
Effectivement.
Donc,
Parce que j'ai une mémoire d'autiste.
Oui, mais incroyable.
Parce qu'il y a Ethné à Madagascar, c'est-à-dire dans le hémisphère sud. Vous voyez, j'en ai des séquelles. Aujourd'hui encore, mon épouse n'arrête pas de me dire, mais... tu as l'air tout tourne-boulé. Je dis, ben oui, je suis retourné dans l'hémisphère sud, et puis je ne sais plus où est le nord du sud. Enfin bref, je suis fatigué, mais bon, j'ai calmé le vin, même si 2025, c'est l'année de tous les vins, rosé, blanc, rouge. Et rosé, blanc, rouge, c'est aussi le triathlon vendéen.
Oui, j'adore vous.
Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez.
Mais je vais vous arrêter parce que, en tout cas, le goût des détails, des couleurs, des saveurs, on retrouve tout cela dans votre livre, mon cher Philippe. Oui.
Alors, effectivement,
j'ai préparé des questions, mais jamais je les mène au bout avec Philippe Gilbert.
Mais il faut effectivement préciser que ce livre, c'est un récit de voyage.
Oui.
Qui est le voyage qui m'a transformé la vie et mûri en quelque sorte, puisque j'ai fait la route des Indes, qui était encore praticable en 1978, avec ma copine Juliette, en stop.
En stop.
Ça a duré un an.
Voilà, ça a duré
un an. Et c'était encore possible, excusez-moi de vous interrompre, Emmanuel, c'était encore possible parce que cette route dite des hippies, moi, ma communauté, c'était Juliette, était encore praticable, mais pour peu de temps encore, puisque... Quand je suis passé en Iran, c'était 15 jours avant le renversement du Shah. Et quand je suis passé en Afghanistan, c'était un régime communiste, c'était quelques mois avant l'arrivée des soviétiques. C'est pour vous resituer l'époque.
D'où le titre « Le monde change après »,
oui.
Qui vous vient d'un ami vendéen.
Le monde change après.
Ouais, qui vous a inspiré, vous le dites au début du livre, je crois.
Pas forcément. Oui, c'est-à-dire que à un certain moment, je rencontre un Suisse qui revient d'Inde. Je suis à Kaboul et qui me fait fumer une sorte de gauloise spéciale. J'étais pas du tout habitué à ça et je me suis retrouvé dans les limbes. Et donc il me dit, mais tu verras après. Après l'Afghanistan, quand tu auras passé la Khyber Pass, les gorges de la Khyber Pass qui font la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, le monde change. Et effectivement, le monde change encore plus après le Pakistan, même si le Pakistan et l'Inde, c'est le même peuple. Les musulmans sont au Pakistan et l'Inde est hindouiste. Mais je ne vais pas refaire l'histoire qui remonte à 1947.
Et le monde change après aussi, vous le dites, hein, ces années 78-79 en Iran, en Afghanistan. On vous retrouve dans ce périple avec plein d'anecdotes, évidemment. Vous allez partir, vous allez traverser Turquie, Iran, Afghanistan. Les premiers pas, c'est d'abord au Maroc. Ce récit, plein de couleurs, de détails, vous avez en fait repris vos carnets de voyage.
Mais oui, parce que autant j'étais incapable d'avoir mon CAP routier, j'ai même loupé deux fois mon BEPC, autant j'ai toujours tenu mon journal de bord depuis l'âge de 10-11 ans.
D'accord, c'était bien
plus tôt. J'avais cette habitude et j'adorais les livres d'histoire. Bon, j'ai aimé Tintin, évidemment, et puis Astérix. Hein, mais je lisais aussi la Bibliothèque Verte et puis très rapidement, je suis passé à une lecture plus sérieuse, entre l'âge de 12 et 13 ans. Même pendant les cours de français, je me cachais pour lire mes bouquins ou pour prendre des notes dans mon journal de bord.
Qui vous passionnait plus que les cours et les professeurs.
Complètement. Et vous savez, durant cette fameuse célébration du prix des écrivains de Vendée le 28 novembre dernier, j'ai trouvé le moyen de dire à l'assistance, qui a beaucoup rigolé, car le but était là aussi, à l'école, j'ai rien appris et ça me sert encore. J'ai aussi parlé en patois, bédame, écoutez, si vous croyez qu'il est facile d'avoir Chopri, hein, mais comme on dit à la Mabangère, commune de Château-Guibert, qui faire à ça? Ah, voilà, donc le ton était donné, ça a été très sympa avec le président Alain Perrochaud, que je salue au passage, Yves Yolier qui a justement donné l'idée du titre, mais plutôt que la route des Indes.
C'est ça, oui, dont je vous parlais.
Mais je m'égare facilement.
Le Monde change après, c'est Yves Yolier qui vous l'a...
Oui, parce que la phrase est dite dans le livre.
C'est ça, mais... c'est exactement voilà. Ça.
Et puis je connais Yves Yolier, je l'ai connu devant un micro à l'époque de Radio Picton, quand j'y étais à Luçon, entre 1985 et 1990. Je dis ça pour me rajeunir. Et donc voilà quoi.
Et donc on vous retrouve dans le détail. Alors effectivement, on retrouve le passionné de, alors de lecture, vous n'en parlez pas trop, mais de foot, ça vous en parlez souvent.
Oui.
De cinéma.
Oui, parce que j'ai été footeux, j'ai même été entraîneur-joueur quand je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. J'ai entraîné la Renaissance de Boisflay et la Sonitra de Yamoussoukro, et puis en Vendée j'ai également entraîné la Jeune France de Saint-Provent, et puis très vite je suis passé à autre chose à cause de l'AFM.
Mais ça va être important, le foot, parce que vous jouez souvent au foot sur votre,
mais
votre voyage.
Effectivement, j'ai même une illustration d'un ami turc à Saint-Koumoul.
Excellent.
Et qui m'a dessiné en footballeur, mais je ne pensais qu'à ça. Mais à 22 ans, on n'est pas très futé. Je ne dis pas que je le suis beaucoup,
non, mais
maintenant.
C'est important. Le cinéma, c'est pareil. À chaque fois que vous arrivez sur une terre, vous avez toujours une anecdote.
Oui.
Ah, c'est là qu'a été tourné tel ou tel film, telle ou telle scène.
Effectivement. Le cinéma a été une grande passion de l'âge 12 à 20 ans. Je voyais à peu près 250 films par an. Ça a été ma vraie culture. Et j'étais incollable, même sur le cinéma muet, je connaissais beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, j'allais au cinéma, mais il y avait aussi beaucoup de bons films qui passaient à la télévision, et ces bons films qui passaient à la télé, c'était 7 ans après leur exploitation cinématographique.
Ils ont nourri notre imaginaire.
Donc voilà, j'ai même commis un dictionnaire du cinéma en Vendée,
oui,
parce qu'il y a des tournages célèbres. Pas très loin d'ici, à Noirmoutier, a été tourné notamment un quart d'heure de César et Rosalie et Tutti Quanti.
Et on va revenir sur ce livre, sur ce voyage que vous avez réalisé sur une année, hein, sur la route des Indes. Vous aviez 22 ans et une furieuse envie, en fait, de voir le monde et de quitter un petit peu les abysses du quotidien. On va en parler dans 3 minutes.
Hein. Juste après Smé et Jonas Smith, et La vie change sur Nov.
Respirer. Tous les
Mario, on vous souhaite bon appétit avec le dernier Esmé, la continuité, bien sûr, des rendez-vous de midi avec votre invité Philippe Gilbert.
Emmanuel. Oui, avec son livre Le Monde change après, la route des Indes 1978-1979. Dans ce livre et dans ce voyage, Philippe, vous nous racontez voilà, ce plusieurs mois de pérégrination en stop avec votre amie Juliette. Vous rêviez, vous avez 22 ans, mais en 1978, vous rêviez en fait de ne surtout pas vous ancrer dans un quotidien abyssal et vous rêviez de voir le monde. Comment vous avez décidé de ce voyage ?
Mais vous savez, déjà, je suis né à Madagascar. Et donc, il y avait un certain exotisme chez mes parents. C'était la coulitude. Ils avaient gardé ce rythme tropical. Et d'ailleurs, quand je suis parti, quand j'aurais dit que je partais, ils n'étaient pas trop d'accord. Ils auraient voulu que j'essaye d'avoir une situation, alors que je n'avais pas eu mon CAP routier, que je me suis fait virer, que le stage de représentant de commerce, je ne l'ai pas fini. Voilà.
C'était pas très sécurisant pour les parents.
Mais non. Et puis il me dit, mais quelle idée de partir comme ça. Je dis, mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous m'avez fait baigner dans cette ambiance. Voilà, j'ai envie de partir. Et mon père a eu ce mot merveilleux. Il m'a dit, écoute, je ne suis pas d'accord, mais sache que si tu as des soucis durant ce voyage, tes meilleurs amis, c'est encore tes parents.
Et vous le dites dans ce
C'est livre. Un sacré passeport. Oui, dès le départ, je le dis. Sachant que je ne raconte que la moitié de mon voyage dans cet ouvrage, parce que je m'arrête aux portes du Pakistan. Je pars du Pakistan, où je suis resté 2 mois. J'ai même eu un début de scorbut qui a été difficile à débusquer. Mais l'hospitalité des Pakistanais à l'époque, je crois que j'y retournerai pas aujourd'hui, était exceptionnelle, aussi exceptionnelle que chez les Turcs.
En Turquie, c'est incroyable.
Et en Inde, où le monde change encore, je dirais même que c'est une autre planète, l'Inde. Encore, même si le Pakistan, c'est une ambiance, c'est le sous-continent indien. Alors, est-ce que je ferai une suite ? Mon épouse, Isabelle Proutot, m'y pousse, je la salue au passage.
J'espère.
Ça va être quel titre ? Est-ce que je vais pas ? Oui, j'ai une petite idée, mais en même temps, je ne fais pas de compétition, je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument écrire un ouvrage par an. J'ai été journaliste, j'ai écrit, j'ai calculé 7000 papiers signés à Ouest France en étant un titulaire à temps partiel, c'est-à-dire à 70%, donc j'ai beaucoup écrit. Là, j'écris.
Il faut la suite, parce que qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend tellement de choses sur ces terres que vous traversez, à la fois leurs odeurs, leurs couleurs, les hommes et les femmes aussi, vous croisez beaucoup d'hommes, hein, plus que de femmes.
Mais oui, parce que dans les pays musulmans, c'est pas si simple que ça.
Non, et pourtant, par exemple, en Turquie, vous insistez aussi sur l'histoire de la Turquie, la laïcité qui est farouche. Et pourtant,
Moussa Kemal, l'Atatürk, qui est toujours un personnage déterminant. Pas toujours, parce que c'est un peu compliqué en Turquie en ce moment. On voudrait effacer le kémalisme, alors que la Turquie a été laïque. Et les femmes ont voté, les femmes turques ont voté
les Françaises.
Bien avant les Françaises,
mais
absolument.
Tout ça, on vous le rappelait dans ce livre. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment important et utile. Et puis voilà, on vous suit. Vous parlez de l'accueil au Pakistan, mais en Turquie, voilà, vous ne payez pas de centime. À chaque fois que vous croisez quelqu'un qui vous prend en stop, il va vous offrir le repas, le gîte, la cigarette.
Alors, quelquefois, ils sont également intéressés par ma copine.
Oui.
Donc, je suis là pour m'interposer, pour faire le macho. Oh, ça m'allait bien. Mais maintenant, même le mot, on se demande si on doit le dire à l'antenne, en direct. Oui. On vit un drôle de monde.
C'est vrai que c'est
le monde va encore changer.
C'est forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire incroyable que vous avez vécue. Effectivement, ça vous a marqué à vie, ce voyage.
Mais bien sûr, bien sûr. Toute la valse, the best university in the world. Vous avez vu l'anglais.
Formidable.
L'anglais indien. Je cauchemardais en anglais, parce que même en anglais, j'étais nul. Mais effectivement, le voyage est la plus belle université du monde. Même si on est bardé de diplômes, voyager, Sur, de préférence de 20 à 30 ans. Mais j'ai vu un Anglais qui avait 72 ans, qui était veuf, qui s'est retrouvé en Inde. Il dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? J'ai dit, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, le voyage est indispensable. Et vous savez, il faut aller un jour très loin pour apprécier l'exotisme à sa propre porte. Et j'ai jamais autant apprécié l'exotisme devant ma porte que quand j'étais à Chaland devant les marais. Et sur l'histoire, et sur la Vendée. Puisque je suis vendéen, né à Madagascar, mais de parents totalement vendéens.
Et ça, vous le dites souvent aussi dans le livre, hein, que vous êtes vendéen, épicurien aussi. C'est un mot qui ne revient pas, mais...
Oui, mais vous savez, à l'époque, en plus on ne soufflait pas dans le ballon, le samedi soir, on se retrouvait au bal, ça y allait. Mais attention, pas d'alcool, que du vin.
Que du vin.
Hein, et comme disait Pierre Desproges, dont on peut saluer la mémoire, oui. Parce qu'il avait une fesse vendéenne par son épouse, qui était une Mourin, Hélène Mourin. Et je crois qu'une de ses filles vit du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Tout à fait.
Hein, et Pierre Desproges disait...
Périne.
Oh, Périne, que nous saluons.
Nous la saluons complètement.
Et Desproges disait, on dit que je bois à outrance. Mais je ne sais même pas où c'est. Et le deuxième, hein, puisque vous parlez d'un... Parce que j'ai trouvé le moyen, durant la cérémonie... du 28 novembre dernier, de dire que je lisais mieux dans un ballon de rouge que dans le bar de café. Hein, c'est ça, là, j'écris en vin, mais sur le vin aussi. Et des proches, pour retomber sur mes pattes, disaient « on dit que l'alcool tue ». Mais de combien de naissances est-il responsable?
Ça, je ne la connaissais pas. Philippe, on vous retrouve avec de bons verres de vin, mais surtout aussi du thé avec une saveur particulière, du pain aux olives. On a envie de manger hein, quand on lit.
Oui,
livre,
oui.
On a envie de voyager, surtout, donc Paris réussi oui. Quelque part. Hein.
Mais comme je vous le disais, l'exotisme est devant notre propre porte. On peut. Alors, c'est bien d'aller très loin quand on a 20, 30 ans. Et je ne voulais pas prendre l'avion, je ne l'ai quasiment jamais pris de ma vie, très peu. Non, parce que c'est plus du voyage, c'est du tourisme après, où tout est prêt. Non, il faut sortir des sentiers battus. Et quelquefois, vous êtes sur un boulevard, vous prenez juste la rue à droite ou à gauche, et le monde change.
Et c'est, voilà, c'est franchement, merveilleux livre, je vous le conseille. Il est à la Maison de la Presse hein, de Chaland.
Il est rare. Parce que je l'ai fait auto-éditer, je voulais avoir la paix.
Oui.
Et c'est grâce à Jean-Yves Revaux, les éditions du Raton Laveur, Jean-Yves Revaux et son copain que j'appelle Hemingway II, qui m'ont fait la mise en page. Tout, j'ai juste eu à payer l'imprimeur à Poitiers, ça s'est passé comme ça. Quand il y a eu cette annonce du prix des écrivains de Vendée, j'étais obligé d'en racheter 100. Et les 100 premiers, j'en avais donné 94, on m'en a volé 2, j'en avais vendu 2. Et je continuerai. On m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et je dis, mais parce que je suis comme ça, j'ai un problème avec la vente. Mon stage à la chambre de commerce et d'industrie de La Roche-Couillon, de La Roche-sur-Yon. J'ai une nouvelle que je prépare où la ville s'appellera La Roche-Couillon.
Ah, j'ai hâte.
Voilà, donc, mais comme on dit à la Garnache ce matin, il est à la pêche au moule, il suit moulu, 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 moulu. Mais heureusement que je n'ai pas été à la pêche au coq.
Bon. Je connaissais aussi ça.
J'ai dit une bêtise.
Non, pas du tout, jamais, Philippe Gilbert. Le Monde change la presse, c'est donc à la Maison de la Presse de Chaland. Allez l'acheter et lisez-le et voyagez. Merci beaucoup, Philippe.
C'est moi qui vous remercie. C'était un réel plaisir.
Toujours un régal de vous recevoir. Oui, je vous écoute.
J'ai beaucoup plus d'émotions que vous l'imaginez. Parce que je reviens un peu à mes débuts FM. Et puis, je vous ai beaucoup fréquenté quand j'étais encore en activité sur Chaland. Et puis je suis heureux de savoir que le 9FM va bien.
Oui.
Et à Tchéfette de Pâques.
À Tchéfette.
Merci. À demain pour d'autres aventures.
À demain, Arnaud. À bientôt, Philippe.
L'info se poursuit tout de suite.